Livre 11, chapitre 2. Aventure de Sophie après son départ d'Apton. Au moment même où notre histoire a été obligée de rétrograder, nous venions de faire part au lecteur de la manière dont Sophie et sa femme de chambre avaient quitté l'auberge d'Apton. Nous allons maintenant suivre le pas de cette charmante personne et laisser son infidèle amant déplorer encore quelque temps son malheur, ou plutôt sa mauvaise conduite. Sophie avait engagé son guide à la conduire par des chemins détournés à travers champs. Ils avaient passé la Severn et étaient à peine à 1 mile de l'auberge quand la jeune personne, regardant derrière elle, vit plusieurs chevaux qui la suivaient au grand galop. Cette vue redoubla ses craintes et elle ordonna au guide d'aller en avant le plus vite possible. Il obéit sur le champ et les voilà tous au grand galop. Mais plus ils allaient vite, plus vite ils étaient suivis. Et comme les chevaux de derrière étaient meilleurs que ceux de devant, ces derniers furent bientôt rejoints. Cette circonstance fut heureuse pour la pauvre Sophie, que la crainte jointe à la fatigue avait presque totalement anéantie. Car elle revint bientôt à elle en entendant la voix d'une femme qui la salua de la manière la plus douce et avec la plus grande civilité. Sophie, aussitôt qu'elle eut repris la force de parler, lui rendit son salut avec la même civilité et la satisfaction la plus vive. La compagnie de voyageurs qui avait rejoint Sophie et lui avait causé tant de terreur était aussi composée de 2 femmes et d'un guide. Ils firent ensemble 3 000 entiers sans que personne ouvrît la bouche. Enfin, notre héroïne, assez bien revenue de sa frayeur, quoique un peu surprise que sa nouvelle compagne, loin de penser à la quitter, évita aussi soigneusement qu'elle de suivre aucun grand chemin et prit les mêmes détours, s'adressa à la dame étrangère du ton le plus obligeant et lui dit qu'elle était très heureuse de voir qu'elles eussent la même route à parcourir. L'autre, qui n'attendait qu'une question pour avoir l'occasion de parler, répondit soudain que le bonheur était tout entier pour elle, qu'elle était parfaitement étrangère en ce pays et avait été si charmée de rencontrer une personne de son sexe qu'elle s'était peut-être rendue coupable, en l'accompagnant, d'une impertinence qui exigeait de sa part de grandes excuses. Ces 2 dames continuèrent à se faire beaucoup de politesse, car Mrs. Honora avait cédé sa place au bel habit de l'étrangère et s'était retirée à l'arrière-garde. Mais quoique Sophie eût une grande curiosité de savoir pourquoi cette autre dame continuait à l'accompagner ainsi, quoique cela lui donnât même une sorte d'inquiétude, la crainte ou la modestie ou quelque autre considération l'empêchèrent de la questionner à cet égard. La dame étrangère éprouvait en ce moment une peine dont il paraîtra peut-être au-dessous de la dignité de l'histoire de faire mention. Dans l'espace du dernier mille, le vent avait jusqu'à 5 fois enlevé son chapeau, et elle ne pouvait parvenir à trouver un ruban ou un mouchoir pour l'attacher sous son menton. Sophie n'en fut pas plutôt instruite qu'elle lui prêta un mouchoir, mais en le tirant de sa poche, elle négligea peut-être trop la bride de son cheval, car la pauvre bête, faisant malheureusement un faux pas, tomba en avant et désarçonna sa belle conductrice. Quoique la tête de Sophie eût porté en tombant, elle ne se fit heureusement aucun mal, et les mêmes circonstances qui avaient peut-être contribué à sa chute lui épargnèrent la petite confusion qui en est ordinairement la suite, car le chemin par lequel il passait alors, bordé de haies vives, était si étroit, si couvert d'arbres, que la lune n'aurait pu y faire pénétrer qu'une bien faible lumière. Elle était d'ailleurs alors tellement voilée par un nuage que jamais obscurité ne fut plus profonde. Ainsi, la modestie de notre héroïne n'eut point à souffrir, elle remonta lestement à cheval et en fut quitte pour un peu de frayeur. Le jour parut enfin dans tout son éclat, et les jeunes dames qui traversaient alors une prairie commune aux habitants du village voisin, se trouvant à côté l'une de l'autre, purent se distinguer. Au même moment, leurs yeux se fixèrent, leurs chevaux s'arrêtèrent, et toutes 2, parlant ensemble, prononcèrent avec une égale joie, l'une le nom de Sophie, l'autre celui d'Henriette. Cette rencontre inattendue les surprit beaucoup plus qu'elle ne surprendra, je crois, le lecteur pénétrant qui doit avoir imaginé que la dame étrangère ne pouvait être que Mrs. Fitzpatrick, cousine de Miss Weston, dont nous avons raconté la brusque sortie de l'auberge peu de minutes après elle. La surprise et la joie de ces 2 cousines, qui avaient été autrefois les plus intimes amies, et de plus avaient demeuré longtemps ensemble chez leur tante Weston, furent telles qu'il serait impossible de répéter ici la moitié des félicitations qu'elles se prodiguèrent mutuellement, avant de s'être fait l'une et l'autre une question très naturelle, savoir où elles allaient. Enfin, ce fut Mrs. Fitzpatrick qui la fit la première. Mais, toute simple et toute naturelle que cette question puisse être, Sophie trouva quelques difficultés à y faire une réponse prompte et claire. Elle pria donc sa cousine de suspendre sa curiosité jusqu'à ce qu'elle fût arrivée à quelque auberge, qui, je suppose, dit-elle, ne doit pas être fort éloignée. Et croyez-moi, Henriette, j'ai autant de peine que vous à suspendre la mienne, car j'ai tout lieu de croire que notre surprise doit être à peu près égale. La conversation qui eut lieu entre les deux dames pendant le reste de la route mérite peu d'être rapportée. Beaucoup moins encore, sans doute, celle des deux femmes de chambre, qui se firent aussi de grands compliments l'une à l'autre. Quant au guide, ils furent privés du plaisir de la conversation, l'un étant placé à l'avant-garde et l'autre obligé de défendre l'arrière-garde. Ils voyagèrent dans cet ordre pendant plusieurs heures et arrivèrent enfin à une route large et bien battue qui les conduisit bientôt, en détournant sur la droite, à une auberge d'une très belle apparence, où ils s'arrêtèrent tous. Mais Sophie était si fatiguée, elle avait eu tant de peine à se tenir à cheval pendant les 5 ou 6 derniers milles, qu'elle était hors d'état d'en descendre seule. L'aubergiste, qui s'était emparé de la bride de son cheval, s'en étant aperçu, s'offrit à l'enlever de dessus la selle, ce qu'elle accepta très volontiers. Il semble en vérité que la fortune eut résolu de faire rougir Sophie ce jour-là, et son malin projet réussit mieux la seconde fois que la première, car l'aubergiste n'eut pas plutôt reçu la jeune dame entre ses bras que ses pieds récemment fort maltraités par la goutte lui manquèrent et qu'il tomba. Mais en même temps, avec non moins de dextérité que de galanterie, il eut la présence d'esprit de se placer sous son charmant fardeau, en sorte que lui seul reçut quelques contusions de sa chute, et que le plus grand mal qui en arriva à Sophie fut l'atteinte portée à sa modestie, lorsque, se relevant, elle observa sur le visage de la plupart des spectateurs un sourire malin et très marqué qui lui fit soupçonner ce qui était réellement arrivé, et que nous ne rapporterons pas ici, dussions-nous déplaire à ceux de nos lecteurs qui sont capables de rire des outrages faits à la délicatesse d'une jeune femme. Nous n'avons jamais pu nous amuser des accidents de cette nature, et nous ne nous ferons pas un scrupule d'avancer que c'est avoir une idée très imparfaite de la modestie d'une femme jeune et belle que de ne pas craindre de l'immoler au sot plaisir d'en rire un moment. Cet effroi, cet embarras, joints à l'excessive fatigue d'un long voyage, avaient presque épuisé les forces de Sophie, et elle en eut à peine assez pour se traîner, en chancelant, jusque dans l'intérieur de l'auberge, appuyée sur le bras de sa femme de chambre. Elle n'y fut pas plus tôt assise qu'elle demanda un verre d'eau, que Mrs. Honora, très judicieusement suivant moi, changea en un verre de vin. Mrs. Fitzpatrick, instruite par Mrs. Honora que Sophie ne s'était point couchée les 2 dernières nuits, et observant qu'elle était pâle, défaite et accablée de fatigue, la conjura instamment de se rafraîchir en prenant un peu de sommeil. Elle ne savait encore rien de son histoire ni de ses craintes, mais quand elle en aurait été instruite, elle lui eût donné le même conseil, car le repos lui était visiblement nécessaire, et la longue route qu'elles avaient à faire par les chemins détournés éloignait si évidemment tout danger de se voir poursuivie qu'elle était elle-même parfaitement tranquille à cet égard. Sophie n'eut pas de peine à consentir à suivre le conseil de son amie, que sa femme de chambre avait secondé de tout son pouvoir. Mrs. Fitzpatrick s'offrit de plus à tenir compagnie à sa cousine, ce que Sophie accepta avec beaucoup de complaisance. La maîtresse ne fut pas plutôt au lit que la femme de chambre se mit en devoir de suivre son exemple. Elle commençait à faire beaucoup d'excuses à sa camarade Abigail de la laisser seule dans un aussi vilain lieu qu'une auberge, mais l'autre l'arrêta tout court, et aussi disposée qu'elle à faire un léger somme, la pria de lui accorder l'honneur d'être sa camarade de lit. La femme de chambre de Sophie y consentit, en prétendant néanmoins que tout l'honneur était de son côté. Enfin, après bien des politesses et des compliments, les deux femmes de chambre se mirent au lit, comme leur maîtresse avait fait un moment auparavant. C'était l'usage de notre aubergiste, et c'est celui, je crois, de toute la confrérie, d'interroger soigneusement tous les cochers, laquais, postillons et autres sur le nom de tous ses hôtes, la valeur de leurs terres et les lieux où elles étaient situées. Il ne paraîtra donc pas surprenant que la foule des petites circonstances particulières où se trouvaient nos voyageuses, et notamment le parti qu'elles venaient de prendre en se retirant toutes pour se livrer au sommeil à une heure si extraordinaire que celle de 10 heures du matin, eût excité sa curiosité. En conséquence, aussitôt que les guides entrèrent dans la cuisine, il se mit à s'informer d'eux, qui étaient ces dames et d'où elles venaient. Mais les guides, quoiqu'ils racontassent fidèlement tout ce qu'ils savaient, loin de lui donner toute la satisfaction qu'il désirait, enflammèrent plutôt qu'ils n'éteignirent sa curiosité. Cet aubergiste avait, parmi tous ses voisins, la réputation d'un homme d'une sagacité extraordinaire. Il passait pour avoir plus de profondeur et pour pénétrer le fond des choses plus habilement qu'aucun autre homme dans la paroisse, sans en excepter le curé lui-même. Peut-être son regard n'avait-il pas peu contribué à lui procurer cette réputation, car il avait quelque chose d'étonnamment grave et significatif, surtout quand il avait une pipe à la bouche, ce qui lui arrivait presque toujours. Sa conduite servait aussi beaucoup à propager la haute opinion qu'on avait de sa sagesse. Il y avait quelque chose de solennel et même de sombre dans toutes ses manières. Quand il parlait, ce qui lui arrivait rarement, il s'énonçait toujours avec lenteur, et quoique ses phrases fussent courtes, elles étaient encore interrompues par beaucoup de « hum »,« ah »,« oui »,« non » et autres monosyllabes ou particules explétives. En sorte que, quoiqu'il accompagnât ses paroles de certains gestes interprétatifs, consistant à remuer la tête dans tous les sens ou à porter l'index en avant, il laissait généralement ses auditeurs dans la persuasion qu'ils en avaient compris plus qu'ils n'en avaient dit. Et même, il leur donnait le plus souvent à entendre qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne jugeait à propos de leur en révéler. Cette dernière circonstance suffirait seule, en effet, pour nous donner le secret de sa réputation de sagesse. Tant les hommes sont étrangement portés à admirer ce qu'ils n'entendent pas. Grand secret sur lequel beaucoup d'imposteurs se sont toujours reposés avec sécurité lorsqu'ils ont entrepris de tromper le genre humain. Ce grand politique, prenant alors sa femme à part, lui demanda ce qu'elle pensait des dames qui venaient d'arriver. « Ce que j'en pense, répondit la femme, et qu'en penserais-je ? Je sais bien, répliqua-t-il, ce que j'en pense, moi. Les guides nous content d'étranges histoires. L'un d'eux prétend arriver de Gloucester et l'autre d'Upton, et ni l'un ni l'autre, autant que je puis voir, ne peut dire où elles vont. Mais qui s'est jamais avisé de venir par des chemins de traverse d'Upton ici, surtout pour aller à Londres ? Car l'une des femmes de chambre, avant de descendre du cheval, a demandé si cette route-ci n'était pas la route de Londres. Maintenant que j'ai réuni toutes ces circonstances, je devine parfaitement qui elles sont. Voyons si vous serez aussi habile que moi. Moi, répondit-elle, non sans doute. Vous savez que je n'ai pas la prétention de deviner toutes vos découvertes. Voilà une bonne femme, répliqua-t-il, en lui donnant un petit coup sur le menton. Je dois avouer que vous avez toujours reconnu la supériorité de mes connaissances en ces sortes de matières. Eh bien donc, comptez là-dessus. Souvenez-vous de ce que je dis. Comptez là-dessus, ce sont certainement quelques-unes de ces femmes rebelles qui voyagent, dit-on, avec le jeune chevalier, nom qu'on donnait aux prétendants, et qui ont pris des chemins détournés pour échapper à l'armée du duc. Mon mari, dit la femme, vous avez sûrement deviné juste, car l'une d'elles est mise aussi richement qu'une princesse, et certainement tout le monde la prendrait pour telle. Mais cependant, quand je considère une chose, quand vous considérez, s'écria l'aubergiste avec un ton de mépris, voyons, je vous prie, que je sache ce que vous considérez. C'est, reprit sa femme, c'est qu'elle est trop polie pour être une bien grande dame. Car pendant que notre Betty bassinait son lit, elle ne l'appelait pas autrement que mon enfant, ma chair, mon cœur, et quand Betty s'est offerte pour lui ôter ses souliers et ses bas, elle n'a pas voulu le souffrir, et lui a dit qu'elle ne voulait pas lui en donner la peine. Bah, répondit le mari, cela n'est rien. Croyez-vous que parce que vous avez vu quelques grandes dames grossières et malhonnêtes envers les personnes qui ne sont pas tant qu'elles, il n'en existe pas qui soient honnêtes avec leurs inférieurs? Je crois que je sais reconnaître les gens de qualité à la première vue. Je le sais, je crois. N'a-t-elle pas demandé un verre d'eau en entrant? Une femme d'une autre sorte aurait demandé une goutte, Vous le savez vous-même. Si ce n'est pas une femme de très grande qualité, tenez-moi pour un sot. Mais croyez-moi, si vous me vendiez pour telle, ceux qui m'achèteraient feraient un mauvais marché. Maintenant, une femme de sa qualité voyagerait-elle sans un laquais si elle n'avait de motif particulier pour cela ?
Non, sûrement, mon mari, s'écria-t-elle.
Vous savez tout cela beaucoup mieux que moi et que bien d'autres encore.
Je crois que j'en sais quelque chose, dit-il.
Assurément, reprit la femme. La pauvre petite paraissait dans un état si pitoyable quand elle s'est assise sur cette chaise, je vous proteste que je n'ai pu m'empêcher d'avoir pitié d'elle, presque autant que si elle eût été une pauvre femme.
Mais, mon mari, que faut-il faire?
Si c'est une rebelle, je suppose que vous avez le projet de la dénoncer à la cour.
Fort bien.
Mais elle est d'un caractère si doux, d'un si bon naturel.
Qu'elle soit ce qu'elle voudra, je ne crois pas que je puisse m'empêcher de pleurer quand j'entendrai dire qu'elle aura été pendue ou décapitée.
Bah, répondit le mari, mais quant à ce que nous avons à faire, cela n'est pas si aisé à déterminer. J'espère qu'avant son départ, nous aurons des nouvelles d'une bataille, car si le chevalier la gagne, elle peut nous procurer du crédit à la cour et faire notre fortune sans que nous la trahissions.
Cela est vrai, reprit la femme, et j'espère de tout mon cœur qu'elle en aura le pouvoir.
Certainement, elle est bien douce et bien bonne, et ce serait une chose horrible que je me reprocherais toujours s'il lui arrivait le moindre mal en sortant d'ici.
Bah, s'écria l'aubergiste, les femmes ont toujours le cœur si tendre.
Vous ne voudriez pas, j'espère, protéger les rebelles.
Dites-moi, le voudriez-vous ?
Non, certainement, répondit la femme.
Mais quant à la dénoncer, qu'il arrive ce qu'il voudra, personne ne peut nous blâmer.
C'est ce que tout le monde ferait à notre place.
Tandis que notre politique, qui n'avait pas injustement, comme nous voyons, acquis parmi ses voisins la réputation d'un homme extrêmement sage, était occupé à raisonner à part lui sur cette matière, car il faisait fort peu d'attention à tout ce que sa femme disait, il reçut la nouvelle que les rebelles avaient eu l'adresse d'éviter l'armée du duc et avaient gagné un jour de marche sur Londres. Bientôt après arriva un gentilhomme, fameux jacobite, qui, montrant sur son visage toute la joie qu'il ressentait dans le cœur, prit l'aubergiste par la main et lui dit, en la secouant fortement,
« Tout est à nous, mon enfant. 10 000 honnêtes Français sont débarqués en Suffolk. Notre vieille Angleterre nous va revenir plus brillante que jamais. 10 000 Français, mon brave garçon. Je pars sur le champ pour les rejoindre, et je vais m'en donner. »
Ces nouvelles déterminèrent l'opinion de notre grand politique, et il prit le parti de faire sa cour à la jeune dame dès qu'elle serait levée, car il avait, disait-il, découvert dans le moment qu'elle n'était autre que Madame Jenny Cameron elle-même. Chapitre 3. Très court chapitre, où il y a cependant un soleil, une lune, une étoile et un ange. Le soleil, qui se couche de bonne heure à cette époque de l'année, s'était retiré depuis quelque temps pour se reposer de sa course, quand Sophie se leva, rafraîchie par un léger sommeil, qu'elle ne dut qu'à son extrême fatigue. Car, bien qu'à son départ d'Apton, elle eût dit à sa femme de chambre, et peut-être à elle-même, qu'elle était parfaitement tranquille, il n'en est pas moins vrai que son esprit était un peu affecté de cette maladie qui est toujours accompagnée d'une fièvre continue, et qui peut-être est la même que les médecins entendent, s'ils y entendent quelque chose, par fièvre morale. Mrs. Fitzpatrick se leva aussi à la même heure et fit monter sa femme de chambre et s'habilla sur le champ. C'était réellement une fort jolie femme qui aurait pu même passer pour belle en toute autre compagnie que celle de Sophie. Mais dès que Mrs. Honora fut venue de son propre mouvement, car sa maîtresse ne voulut pas permettre qu'on l'éveillât, et eut habillé notre héroïne, les charmes de Mrs. Fitzpatrick, qui avait rempli les fonctions de l'étoile du matin en précédant le soleil, partagèrent le sort de cette étoile et furent totalement éclipsées dès que cet astre brilla sur l'horizon. Sophie n'avait peut-être jamais paru plus belle qu'en ce moment. Nous ne condamnerons donc pas l'hyperbole de la servante de l'auberge qui, quand elle descendit et eut allumé le feu, déclara et confirma par un serment que si jamais il y avait eu un ange sur la terre, il était en ce moment dans la chambre d'en haut. Sophie avait instruit sa cousine de son dessein d'aller à Londres, et Mrs. Fitzpatrick avait consenti à l'y accompagner.
car l'arrivée de son mari à Upton avait absolument dérangé son projet de se rendre à Bath ou chez sa tante Weston. En conséquence, elles n'eurent pas plus tôt pris leur thé que Sophie proposa de se mettre en route. La lune était alors extrêmement brillante, et quant au froid, elle était déterminée à le braver, n'ayant aucune de ces frayeurs que beaucoup de jeunes femmes auraient ressenties à voyager la nuit. Car elle avait, comme nous l'avons déjà observé, reçu de la nature une petite portion de courage, considérablement augmentée encore par sa situation présente, qui tenait un peu du désespoir. D'ailleurs, comme elle avait déjà voyagé deux fois sans accident au clair de la lune, elle était d'autant plus enhardie à l'entreprendre une troisième. Le caractère de Mrs. Fitzpatrick était plus craintif, car, quoiqu'une plus grande terreur lui en eût fait surmonter une moindre, et que la présence de son mari l'eût forcé de quitter Upton à une heure aussi indue, arrivée maintenant dans un lieu où elle se croyait à l'abri de sa poursuite, cette moindre terreur s'empara d'elle si fortement qu'elle conjura sa cousine avec les plus vives instances de rester jusqu'au lendemain matin et de ne pas l'exposer au danger de voyager la nuit. Sophie, qui portait la complaisance à l'excès, n'ayant pu parvenir ni par le raisonnement ni par la plaisanterie à dissiper les craintes de sa cousine, y céda enfin. Peut-être, si elle avait été instruite de l'arrivée de son père à Upton, eût-il été plus difficile de la persuader, car j'ai tout lieu de croire qu'elle n'éprouva pas en ce moment une bien grande terreur à l'idée d'être atteinte par Jones. Je dirai plus, s'il faut confesser la vérité, je penche à croire qu'elle le désirait plus vivement qu'elle ne le craignait. Quoiqu'il eût été plus honnête à moi de cacher au lecteur ce désir, qui n'est que le résultat de l'une de ces secrètes et involontaires émotions de l'âme, auxquelles la raison est souvent étrangère. Dès que nos jeunes dames furent déterminées à passer la soirée dans l'auberge, l'hôtesse monta pour demander ce que ces dames voulaient manger. Il y avait tant de charme dans la voix, dans les manières, dans la conduite affable de Sophie, que l'hôtesse en fut ravie, et que la bonne femme, persuadée qu'elle était devant Jenny Cameron, devint en ce moment une déterminée jacobite, et fit dans le fond de son cœur des vœux pour le succès de la cause du jeune prétendant, le tout à cause de la grande douceur et de l'extrême affabilité que sa maîtresse supposée avait bien voulu avoir pour elle. Les deux cousines commencèrent alors à s'avouer réciproquement la curiosité qui les pressait de connaître les événements extraordinaires qui avaient occasionné de part et d'autre une rencontre si singulière et si inattendue. Enfin, Mrs. Fitzpatrick, après avoir obtenu de Sophie la promesse de lui tout révéler à son tour, se mit à raconter ce que le lecteur, s'il désire connaître son histoire, pourra lire dans le chapitre suivant.